École normale supérieure, savoir en multimédia.
Alors, nous nous présentons nous-mêmes, donc c'est à la bonne franquette ce soir. Je vais vous introduire d'abord Julie Augras, qui va vous parler de Sartre et Beauvoir, comme vous l'avez vu sur le programme, qui est ici. Il n'y avait aucun doute là-dessus sur le fait que c'était Julie Augras qui était ici d'ailleurs, pas nous, pas de ce côté-là. Je vous parlerai ensuite de Sartre contre Flaubert, et Paolo Tomasia nous parlera de Sartre entre littérature et art, métamorphose de l'engagement, tout ça prenant sa part dans la série Littérature, art, engagement de cette nuit Sartre, où je vous remercie d'être présent.
Je laisse la parole.
Donc voilà, je vais commencer à vous parler de Sartre et Beauvoir sous l'angle particulier de leur expérience commune de lecture et d'écriture. Donc je laisserai de côté l'aspect événementiel et anecdotique, les rumeurs, les commérages sur leur couple, et puis l'aspect philosophique, je n'insisterai pas non plus particulièrement dessus, ni sur l'engagement politique et militant. Je me concentrerai donc sur la lecture et l'écriture comme expérience commune. Sartre et Beauvoir, vous le savez, ont partagé énormément de choses. Ils ont été compagnons d'études, de vie, de voyage, d'engagement et de combat politique, et surtout de pensée et d'écriture. À en croire Sartre, leur relation était marquée par une compréhension mutuelle totale, par un dialogue facile et par même l'utilisation d'un même langage. C'est ce qu'il écrit dans une lettre adressée à Beauvoir du 8 mai 48. Mon Dieu, que c'est agréable d'écrire à quelqu'un qu'on aime pour de vrai, comme on est et qui vous connaît. Pas de surenchère, pas de drame ni de tremblement de voix, et puis on est allié. Mon Dieu, qu'il faut de mots pour expliquer aux gens la plus bête des choses que je pense. Si vous n'existiez pas, au lieu d'être un homme de bon sens, je me plaindrais romantiquement de ma solitude. Et de même, tous leurs témoignages décrivent une relation marquée par la fusion, l'harmonie morale, intellectuelle et affective. Et avec des images récurrentes, celle de l'allié que vous venez d'entendre, ils sont alliés dans le langage et dans la pensée, celle du double ou du jumeau. Ils sont doubles et jumeaux dans la vie, dans l'expérience, dans la perception. Celle de l'égal aussi, ils sont égaux en intelligence et dans leur amour. Sartre, ainsi, dans une lettre qu'il adresse à Beauvoir en 40, écrit « Vous êtes comme la consistance de ma personnalité. La seule chose qui soit réussite, perfection et repos, ce sont nos rapports. » Et dans une interview qu'il accorde au Nouvel Observateur en 77, il dit à propos de sa rencontre avec Beauvoir « Nous étions l'un pour l'autre des égaux. Nous ne pouvions pas concevoir autre chose. J'avais trouvé une femme égale à ce que j'étais comme homme. Nous nous sommes compris comme particulièrement semblables. En fait, je n'ai jamais parlé de mes théories à personne qu'à elle. » De même, Beauvoir, dans ses mémoires, utilise l'image du double pour parler de Sartre et dit « Avec lui, je pourrais toujours tout partager. » Donc ces témoignages nous laissent imaginer une entente parfaite entre deux êtres, un amour nécessaire, c'est le terme qu'ils emploient, que seule la mort puisse détruire. Et je vous cite les dernières phrases de la cérémonie des adieux, qui est en fait la chronique faite par Simone de Beauvoir des dernières années de Sartre. Et donc ces dernières phrases sont « Sa mort nous sépare, ma mort ne nous réunira pas, c'est ainsi, il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. » Sur ce fond d'entente et de compréhension mutuelle totale, se détache donc ce couple littéraire, l'un des plus célèbres du XXe siècle, un couple d'écrivains, d'intellectuels et de créateurs. Et ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est sur l'expérience commune, fondamentale et fondatrice, sur laquelle reposa toujours l'existence de ce couple, à savoir la lecture et l'écriture. Et je ferai cela sans me soucier d'éventuelles rivalités ou inégalités. Je préfère, c'est peut-être naïf, mais les traiter sur un pied d'égalité dans cet exposé. Alors tout d'abord la lecture. C'est peut-être l'expérience qui met le mieux en évidence le principe de don contre don sur lequel reposaient les rapports de Sartre et Beauvoir. À commencer par les lectures partagées. Bon, comme beaucoup de gens, Sartre et Beauvoir se racontaient les livres qu'ils avaient lus chacun de leur côté. Ils se les conseillaient, les discutaient, en discutaient ensemble, les jugeaient, les commentaient. Je ne citerai qu'une phrase de Sartre qui se trouve dans les entretiens, alors qu'ils sont publiés après la cérémonie des adieux, enfin à la suite, et qui sont donc des entretiens qui datent de 1974, où Beauvoir mène l'interview, et donc qui ont d'abord été enregistrés avant d'être publiés par écrit. Et Sartre dit à propos de Faulkner, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, « Je me rappelle encore, c'est vous qui l'avez lu la première, et vous m'avez montré les nouvelles en me disant qu'il fallait les lire. Plus intéressant, c'est la lecture commune. Sartre et Beauvoir ont lu énormément de livres de toutes sortes, ensemble, et ils ont découvert des auteurs ensemble. Dans ces mêmes entretiens, à propos de Kafka, Simone de Beauvoir dit « Nous l'avons découvert ensemble assez tard. » Et elle dit plus loin « Nous avions des goûts communs. Il y avait beaucoup de livres qu'on lisait ensemble. Au fond, la liste de livres que je donne comme les ayant lus moi dans la force de l'âge. » Et Sartre lui répond « Souvent, un volume nous servait à tous les deux et nous en parlions beaucoup ensemble. » Et il dit plus loin « Certains personnages romanesques ou vrais nous servaient de référence. » Beauvoir lui répond « Oui, c'était très intégré à notre vie tout ce que nous lisions. » Et Sartre lui répond enfin « Oui, il faut le dire, parce que ça donne un caractère de plus à la lecture qu'un livre était à nous deux à ce moment-là. » Alors il me semble que cette phrase est très importante et pleine de sens. Elle dit l'importance de cette lecture qui était presque simultanée parfois, du moins commune, et surtout également l'importance de la possession réelle et symbolique d'un livre à deux. Cette lecture à deux, bien évidemment, n'équivaut pas à deux lectures personnelles parallèles, mais à une expérience enrichie qui est comme dotée d'un, on pourrait dire, d'un supplément d'âme et qui se transforme en expérience triangulaire, en un dialogue permanent entre le texte et le lecteur, comme il est normal, mais aussi entre les deux points de vue des deux lecteurs que sont Sartre et Beauvoir, et ce virtuellement à chaque phrase lue et réellement lors de la discussion qui suivait chacune de leurs lectures. On peut donc voir émerger un nous lecteur, un nous lisant. Et cet aspect commun et partagé de la lecture sera renforcé à la fin de la vie de Sartre, puisque devenu aveugle, il ne lisait plus qu'à travers les yeux de Beauvoir. Enfin, troisième point pour parler de cette expérience commune de lecture, ce qu'on peut appeler l'entre-lecture ou la lecture mutuelle. Sartre et Beauvoir respectaient un certain nombre de principes communs, et dont l'un des plus importants était qu'ils étaient l'un pour l'autre, premier et ultime lecteur, premier et ultime juge de leurs œuvres respectives. Je citerai une interview de Sartre accordée à Vogue en 65, où il dit à propos de Beauvoir « Quand je lui montre un écrit, ce que je fais toujours et qu'elle fait des critiques, je commence par me mettre en colère et la traiter de tous les noms. Puis je les accepte toujours. Une fois qu'elle me donne en quelque sorte l'imprimatur, je lui fais une totale confiance et jamais les critiques des autres ne m'ont fait changer d'opinion sur une chose que j'avais faite. Dans une certaine mesure, on peut dire que j'écris pour elle, ou plus exactement, pour qu'elle filtre la chose. » De même, Sartre poussait Beauvoir à écrire, lisait ce qu'elle écrivait au fur et à mesure, faisait des suggestions et portait ses manuscrits chez Gallimard. De l'entre-lecture donc, dont je viens de parler à l'expérience commune d'écriture, il n'y a qu'un pas, et c'est maintenant ce sur quoi je vais insister un peu plus longuement. Tout d'abord, on peut dire que la relation qui unit Sartre et Beauvoir est une relation entièrement fondée sur l'écriture. Cette relation qui se dit libre semble surtout libératrice pour chacun d'eux, et il semble qu'elle a fait éclore en eux la vocation d'écrivain qu'ils portaient depuis leur enfance en eux. Pour Sartre, apparemment, c'est en lui assurant une sécurité, et c'est le terme qu'il emploie, une sécurité affective et intellectuelle, que cette relation lui a permis d'être l'écrivain qu'il est devenu. Dans l'interview que j'ai déjà partiellement citée, accordée à Vogue en 65, il dit « D'une certaine manière, si vous voulez, je lui dois tout. D'une autre façon, j'aurais évidemment écrit si elle n'avait pas existé, puisque je le voulais. Mais qu'est-ce qui fait que la totale confiance que j'avais en elle m'a toujours donné une totale sécurité, une sécurité qu'il aurait fallu être fou d'orgueil pour l'avoir tout seul ?» Quant à Beauvoir, il semble que ce soit que cette relation l'ait libérée de son éducation bourgeoise et spiritualiste, des chaînes, des mythes qui pesaient sur les femmes à cette époque, et que donc, à travers donc, cette nouvelle manière de vivre ensemble qu'ils ont essayé d'inventer, fondée sur l'association volontaire de deux libertés, grâce à cette relation, donc, elle ait pu se consacrer à son ambition littéraire. Deuxième point qui montre que c'est une relation fondée sur l'écriture, c'est que Sartre et Beauvoir partagent une même conception, en grande partie, de l'écriture et de la littérature, et de leurs valeurs, de leur statut, de leur rôle et de leur pouvoir. Beauvoir, autour de 1946, écrit un portrait de Sartre qui n'a pas été publié en français, mais dernièrement, partiellement, dans le cahier de Lerne consacré à Beauvoir, qui est sorti en janvier 2013. Et dans ce portrait de Sartre qu'elle fait, elle dit donc que l'écriture était perçue par lui dans sa jeunesse comme le seul moyen de salut, celui qui se propose d'ailleurs à Roquentin à la fin de la Nausée. Et ensuite, elle dit qu'avec l'âge, l'écriture est devenue un moyen de salut parmi d'autres, une des manifestations possibles de sa liberté, je cite encore, un moyen donc parmi d'autres de communiquer avec les autres hommes et de leur enseigner précisément à s'affirmer comme conscience et liberté. Donc, pour le dire brièvement, Beauvoir et Sartre partagent, s'accordent sur une même valeur, accordent une même valeur à l'écriture, également à l'imagination, quand il s'agit d'écrits de fiction. Cette écriture, donc, qui, à côté de l'action politique, est le moyen d'exercer sa liberté contre la contingence du monde et de conquérir sa dignité d'homme. Je vous mentionne un autre texte sur lequel je n'ai pas tellement le temps d'insister, qui est une conférence de Beauvoir qui me semble très très importante. Elle s'intitule « Mon expérience d'écrivain » et elle a été donnée au Japon le 11 octobre 1966. Et vous en retrouverez le texte dans l'ouvrage de Claude Francis et Fernand Gontier, « Les écrits de Simone de Beauvoir » publié chez Gallimard. Et ce texte me semble très important parce que Beauvoir déjà y parle en détail de son expérience d'écrivain et surtout elle souligne les nombreux points communs qui existent entre sa propre expérience et celle de Sartre. Troisième point qui montre à quel point cette relation est fondée sur l'écriture, c'est qu'elle s'incarne dans un « nous » autobiographique et littéraire par lequel le couple ne cesse de s'auto-représenter. Alors je reprends ici en partie les thèses de Catherine Poisson dans un ouvrage qui s'intitule « Sartre et Beauvoir du jeu au nous » publié en 2002, où elle dit donc que Sartre et Beauvoir n'ont cessé de mettre en scène leur relation par la transposition fictionnelle, donc dans les œuvres romanesques, ainsi dans l'invité de Beauvoir, il y a le couple Pierre-Françoise, qui est une transposition romanesque de leur couple, ou dans les œuvres théâtrales, par exemple, dans Huis clos, on peut voir dans Garcin et Inès une autre forme de transposition de Beauvoir et de Sartre. Cette relation et ce « nous » est également théorisé dans leurs essais ou dans leurs carnets ou encore ailleurs, et surtout elle est exposée dans le journal qu'ils dirigeaient ensemble, étant moderne, dans leurs lettres, dans leurs entretiens, dans leurs interviews. Et pour ce qui est de Beauvoir, elle est racontée en détail dans ses écrits autobiographiques. C'est ce qui permet à Catherine Poisson de distinguer ce qu'elle appelle un rapport érotico-littéraire entre Sartre et Beauvoir, qui s'incarne donc dans cette entreprise d'auto-représentation permanente, dans ce nous autobiographique et littéraire, marqué à la fois par, je cite, « l'exhibition et le secret, l'authenticité et la fabulation ». Et cette entreprise d'auto-représentation, pardon, elle la considère comme leur œuvre commune. Mais l'expérience littéraire et intellectuelle commune de Sartre et Beauvoir va bien plus loin, pour ce qui est de l'écriture à proprement parler, et elle se manifeste dans chacun de leurs textes qui dialoguent en permanence entre eux, dans lequel on retrouve des échos, des traces qui sont les témoins, des conseils qu'ils se donnaient au cours de l'écriture, des influences qu'ils avaient l'un sur l'autre, des commentaires, des suggestions de correction qu'ils se donnaient. Et même, au-delà de ce dialogue permanent, on peut même repérer des œuvres qu'on peut dire jumelles, qui ont été écrites au même moment et qui ont les mêmes racines, finalement. Ainsi, je reprendrai les concepts qui sont proposés par Jean-François Louette, notamment dans son article qui a été publié dans le cahier de Lerne consacré à Beauvoir de janvier 2013. Il propose le terme d'entre-écriture et même de co-écriture. Alors, dans cet article, il s'intéresse en particulier aux empreintes de Beauvoir comme femme ou comme écrivain dans certaines des œuvres de Sartre, autant de traces de leur dialogue existentiel et intellectuel, selon lui. Je n'en retiendrai quant à moi que quelques exemples et en insistant davantage sur la réciprocité de ces empreintes. Tout d'abord, on peut voir dans les œuvres de Sartre et Beauvoir un dialogue permanent pour ce qui est du fond philosophique et métaphysique, pour ce qui est de la conception et de leur conception et de la mise en scène de l'existentialisme. Et de manière plus ponctuelle, on peut donc trouver des exemples d'entre-écritures, d'œuvres jumelles concernant des œuvres écrites à peu près au même moment. Par exemple, Jean-François Louette insiste sur les points communs qu'il repère dans deux recueils de nouvelles, Le Mur de Sartre, publié en 1939, et Quand prime le spirituel de Beauvoir, écrit en 1935-1937. Il y repère donc un même ton ironique, l'écriture de la mauvaise foi qui se met progressivement en place, et surtout un même sujet, à savoir comment se débarrasser du spirituel, c'est-à-dire de la pratique des vertus chrétiennes, du culte des belles-lettres, et de l'exercice complaisant de la vie intérieure. Autre exemple, peut-être plus probant, celui des deux œuvres métaphysiques qui sont issues d'une expérience commune à Sartre et à Beauvoir, à savoir leur relation triangulaire de 1932 à 1936 avec Olga Kozakiewicz, qui était une ancienne élève de Beauvoir. Donc ces deux œuvres sont L'Invité, donc un roman de Beauvoir publié en 1943, et Huis clos, qui date de 1944. Et dans ces deux œuvres, on retrouve de nombreux échos, des thèmes, des termes ou des images qui reviennent sans cesse dans les deux textes. Par exemple, pour ce qui est de la façon dont le personnage, donc Françoise ou Inès, ressent cette relation triangulaire et ou la vision du couple des deux autres personnages, il y a le thème du vol d'identité, du vol de personnalité qui revient sans cesse. Par exemple, Inès dit « Vous m'avez volé jusqu'à mon visage, vous le connaissez et je ne le connais pas. » Et quant à Françoise, dans L'Invité, il est dit d'elle « Ça faisait des années qu'elle avait cessé d'être quelqu'un, elle n'avait même plus de figure. » Il y a aussi l'image de la dissolution qui est toujours reprise dans L'Invité. Autre thème que l'on retrouve sans cesse, le thème de la mort. Mort symbolique, mort métaphysique, dans la bouche de Françoise et dans ses pensées, et évidemment dans Huis clos, puisque la scène, la pièce se passe en enfer ou dans l'au-delà. Dernier thème que l'on retrouve en permanence, le thème de la violence, de l'enfer du choc des consciences, de cet enfer des relations intersubjectives. Par ailleurs, pour toujours cet exemple-là, dans La force de l'âge, qui est le deuxième tome de l'autobiographie de Beauvoir, elle raconte par exemple comment Sartre lui a conseillé d'introduire Gerbert, donc le quatrième personnage de L'Invité, pour rompre la linéarité de l'intrigue. Autre exemple, l'influence du féminisme beauvoirien sur le personnage de Jessica dans Les Mains sales. Les Mains sales, donc composées en 1948, alors que Beauvoir a déjà commencé à écrire Le deuxième sexe. Jessica apparaît comme une collection ironique des mythes de la femme qu'isole et critique Beauvoir dans son essai. La femme enfant, la femme juge, la femme médiatrice et la femme fatale. Dernier exemple que je prendrai, celui des œuvres autobiographiques de Sartre et de Beauvoir. Les mots, donc, pour Sartre, publié en 1964, et Les mémoires d'une jeune fille rangée, publié en 1958. Alors là, ces deux œuvres ne sont pas écrites en même temps, mais elles montrent un même retour sur l'enfance opéré par Sartre et par Beauvoir, qui s'arrête en 1917 dans les deux œuvres. Et on peut noter ensuite qu'à partir de 1929, date de la rencontre de Sartre et Beauvoir, c'est Beauvoir qui se fera en quelque sorte l'autobiographe du couple. Mais plus intéressant, c'est que l'épilogue des mots, donc, l'épilogue de La force des choses, le troisième tome de l'autobiographie de Beauvoir, et qui est publié en 1963, donc écrit à peu près en même temps que les mots, donc ces deux épilogues sont parallèles et témoignent tous deux d'une même prise de conscience chez Sartre et chez Beauvoir de leur névrose littéraire et du désenchètement de l'écriture qui, selon eux, n'en demeure pas moins nécessaire. Donc je m'arrêterai là pour les exemples. Jean-François Louette propose pour ses œuvres, en particulier, d'aller jusqu'au terme de co-écriture. Ce qui est frappant et nouveau dans cette co-écriture, c'est qu'il ne s'agit pas de la co-écriture d'une même œuvre, mais de la co-écriture de deux œuvres presque simultanées, de deux œuvres qui dialoguent entre elles depuis le début de leur conception, qui sont marquées donc par une gémellité particulière et également par une temporalité particulière, puisqu'il s'agit d'une création presque simultanée. Elles sont liées l'une à l'autre, mais indépendantes et interdépendantes, et aux racines communes. Et il me semble que c'est une piste qui reste encore à explorer. Pour finir, je suggérerais une autre piste qui a déjà été proposée par Catherine Poisson, celle de la création d'un idiolecte propre à Sartre et à Beauvoir, d'une langue commune, visible, selon Catherine Poisson, notamment dans leur correspondance. Cette langue serait marquée par la récurrence de certaines expressions, de tournures syntaxiques, également par une certaine affectation de grossièreté. D'une manière générale, je crois que dans leurs œuvres de fiction, on peut déjà remarquer le retour récurrent de certaines images, de certains thèmes qui sont propres à la pensée existentialiste, mais aussi voir à propos de leur style, peut-être une même influence des auteurs qu'ils ont découverts ensemble, Joyce, Faulkner, Beckett ou encore Dos Passos, à travers, par exemple, l'aspect distancié de ce style, l'utilisation de la narration à l'état brut, la minutie naturaliste qui est appliquée à la description des états de conscience, ou encore à un certain lyrisme dans la saisie de l'immédiateté sensorielle. Pour conclure donc, je pense que nous pouvons regarder avec étonnement et admiration l'exemple de ces deux personnes qui ont su, en toute liberté, trouver un accord qui leur a ouvert un espace commun de pensée, de dialogue et de création littéraire. Si Beauvoir et Sartre n'ont pas proprement collaboré pour écrire une œuvre en commun, on peut dire que cet espace, ainsi que le nous autobiographique et littéraire qu'ils ont créé, sont leur œuvre commune, une œuvre que l'ensemble de leurs écrits ont rendue immortelle. Je vous remercie.